Quelles ont été les conditions de vie les plus dures à supporter pour vous ?
Tu sais que notre journée était une journée où chaque jour la mort nous attendait. On ne nous a pas donné à manger. J'ai reçu, nous avons reçu, une tranche de pain ça pour la journée. Alors ça. Et puis quand nous voulions boire, et bien on avait tous tellement soif qu'on a renversé le café. Donc le matin, tu partais avec ça. Alors tu mangeais ça comme si c'était... c'était la vie. Ce petit bout de pain était la vie. Sans ça, tu meurs. Alors on devait travailler avec ça. Moi, par exemple, mon groupe était dans un groupe où il y a des énormes morceaux de pierre. Pas des pierres, mais des granites qu'il fallait le casser et mettre sur les chemins. Parce que Auschwitz, la terre est mouvante. Donc, quand il pleut, tu t'enfonces.
C'est du marécage.
Il fallait que les bottes de nazis restent brillantes. Et quand ils venaient à Auschwitz, eh bien, leurs bottes étaient ça. C'était insupportable. Donc, on nous a donné ça. Et tous les cailloux que dans Auschwitz et entre Birkenau, c'est nous qui les avons cassés. Mmh. Pour que les bottes soient des nazis brillants.
Comme des cantonniers.
Et alors, quand tu cesses de travailler, tu sais, quand tu ne manges pas, le marteau avec lequel tu deviens lourd. Mais quand tu ne faisais pas ça, tu reçois des coups partout. J'ai reçu tellement de coups qu'il y a un moment, je méditais, je me posais des questions. Et puis, je parlais à mes pieds. Et puis je me parlais à mes mains pour qu'ils puissent encore tenir le marteau. Donc finalement, c'est ça qui m'a... Finalement, à la fin de la guerre, je me suis dit que ça devait contribuer à me sauver, à rester vivant. Donc tout ce que nous faisions, c'était pour mourir. Parce que nous n'étions pas des êtres humains, nous étions des poux.
Comment avez-vous réussi à quitter Auschwitz ? Comment vous en êtes-vous sorti ?
Vous savez que ce jour-là, le baraquement devait être dans la chambre à gaz. Et quand on est sorti après-midi, et que j'ai regardé le dos de mes sœurs, je me dis là, on va aux chambres à gaz. C'est sûr, je l'ai senti. Et il y a les deux baraquements, si vous allez là-bas, il y a un espace grand. Et c'est là qu'on nous... mais debout, et puis on nous compte et recompte pendant des heures, et debout. Et puis moi, je me suis mis au milieu, et je savais que les nazis nous comptaient 5 fois. Le 5e fois, ils montaient, le dos tourné, et j'étais là derrière. Je me dis, Magda, tu vas là-bas, l'autre côté. J'étais poussée. Je me dis, si tu meurs, au moins tu sais pourquoi tu meurs. Là, tu meurs pour des prunes. Là. Et hop ! En quelques secondes, j'étais dans l'autre rang. Et c'est ce rangé-là qui partait à Frankfurt-Zollmann. Celle que j'ai quittée était la chambre à gaz. Et là où j'allais, on allait vers la gare.
Où vous a conduit le train au départ d'Auschwitz ? Vers quels autres camps ?
À Frankfurt, j'allais à Zillertal. De Zillertal, j'allais à Ravensbrück. Et de Ravensbrück, j'allais à Nordhausen travailler dans une usine qu'on descendait dans les profondeurs. Et on faisait là des boulons pour avions. Alors on s'est donné les mains, on les a mal foutus, les boulons. Quand ils sont venus voir que tous les boulons étaient mauvais, eh bien, ils nous ont fichus dehors. Et je me souviens, il pleuvait. Et puis le lieu brûlait. On était dans les 200 qui restent. Et puis là, on était arrêté dans une chambre, dans un grand café où il y avait une très grande salle de bal. Alors on a mis par terre de la paille, comme pour les animaux. Et puis on était 200 dans cette salle-là. On nous a fait sortir en disant, parce que les Américains sont dans le dos. En s'arrêtant à notre zone, c'était un moment d'arrêt de le devant. Parce qu'on avait besoin des mains d'œuvre.
Comment vous avez été libérée? Vous pouvez nous rappeler comment ça s'est passé pour vous?
Comment j'ai été libérée? Figurez-vous qu'il y avait des grands espaces entre les rangs. Et je disais à Martha, et on était trois, on s'entendait très bien. Je dis à Martha, Martha, tu sais, regarde, il y a un grand espace là. Je devais toujours bouger, tout en train de chercher. Tu vois là, ils ont peu nombreux. Tu as vu cet espace-là? Et j'ai vu que, mois d'avril, le bord des bois, parce que c'était des bois, énormes bois, avant d'aller dans ces bois-là, il y avait
des ronces.
Des ronces vertes, qui, même en hiver, c'est vert. Alors je dis, Martha, tu vois, tu as vu, c'est, sur la route-là, c'est vert. Eh bien, quand il y a de grandes distances, je vais sortir. Je vais m'aplatir dans le vert, dans ce buisson vert, et suivez-moi. Toujours. Eh bien, elles m'ont suivi, et puis il y a deux de plus.
Courageuse.
Donc au lieu de trois, on était cinq. Et on a resté dans cette bois en mangeant des feuilles, des feuilles d'automne. Et c'est maintenant, c'est mois d'avril. Ce mois d'avril-là est toujours très, très important. Le 6 avril, le 12 avril, je disais à Cathy, qui était l'aînée, qui nous a suivis, qui était grand, moi j'étais la plus jeune, et qui parlait l'anglais. Je dis, Cathy, regarde, il y a dans les bois un tank, ou quelque chose comme ça, mais qui a sur lui une étoile. Je sens que c'est pas allemand, mais je ne sais pas quelle nationalité. Tu veux venir voir? Et puis elle est venue voir. Mais c'est l'Américain. Et alors voilà.
Les bonnes intuitions.
Et c'était le 12 avril.
Quand vous étiez dans ces camps, est-ce que vous avez vu une lueur d'espoir?
J'ai rêvé de trouver un bout de papier. Et puis un crayon, on peut l'acheter parce que tout ce que nous avions, on nous a déchargé. Et ceux qui ont travaillé pour les ranger, ils ont emmené des choses dans les camps. J'ai dit, un jour, je vais acheter avec le bout de pain que j'ai, un morceau de papier et un morceau de un crayon.
Vous l'avez fait?
Et je l'ai fait. Et alors, j'ai écrit qu'est-ce que je vivais là-bas et comment je sortir. Et par le fait même que j'ai écrit, ça m'a fait un bien fou. Parce que je me suis dit, je sais encore écrire, que je ne suis quand même pas un pou.
Une sorte de galoche que ma mère n'avait plus de chaussures.
On m'a volé mes chaussures. Et le matin, pour aller travailler, au mois d'octobre, très froid en Allemagne, très tôt. Et puis, un jour, ce n'était pas un nazi, c'était un travailleur étranger qui nous surveillait. Je ne sais pas quelle nationalité c'était. Et puis il m'a vu pieds nus. J'ai mis sur mes pieds un morceau de ma robe que j'ai déchiré. Et puis j'ai attaché. Et, mais tu sais, quand il fait froid, j'avais mes pieds qui commençaient à geler et je commençais à ne pas pouvoir marcher. Et si je ne peux plus marcher, je suis foutue. Et puis un gardien qui a hurlé sur moi. Bon, je dis ça y est, ma vie est terminée. Et en hurlant sur moi, parce qu'il risquait sa vie. Il a désobéi et il risquait sa vie. Donc en hurlant, il m'a fait asseoir sur les souches. Et puis il a sorti une paire de galoches et des papiers journaux. Il a mis sur mes pieds. Et il était laid. Et de celui-là que j'avais le plus peur. Et plein de boutons. Il était laid. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis dit... Je passais là et je ne regardais pas. Et c'est lui qui m'a soucié.
À l'époque, qu'est-ce que vous avez pensé des mesures d'extermination mises en place par Hitler?
Eh bien, tu sais, comme jeune, on parlait d'Hitler, mais en Hongrie, on n'en parlait pas. Et on parlait contre les Juifs, mais on ne parlait pas d'Hitler. Mais les adultes en parlaient. J'ai compris que c'est quelqu'un de très mauvais. J'avais 16 ans, donc j'ai essayé de comprendre, mais on ne m'a pas expliqué plus. J'ai découvert ça quand je suis allée dans les camps. Et surtout, j'ai découvert après la guerre. Parce qu'il fallait que je lise. Il fallait que je me suis mise à lire. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai traversé? Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas que, qu'est-ce qu'un juif. Il faut qu'on ait honte d'être un juif parce qu'on les tue.
Pour vous, c'est important de communiquer, d'échanger. Quel sentiment ça vous donne?
Vous nous aidez. Regardez. Combien vous m'avez aidé à réfléchir par vos questions. C'est ce que j'écris ce livre pour vous en remercier. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu parler et de réfléchir ce que vous me demandez pour le dire le plus juste que je peux. Donc je ne voulais pas mourir, ça me tenait à cœur, sans avoir écrit ce mon dernier livre. Il faut que nous donnions sens à notre souffrance. Que chaque souffrance a un sens. En me condamnant, en n'aimant pas ma vie, j'aimais ma vie, mais c'est que je donnais raison à Hitler. Jamais, jamais donner un pouvoir aux autres sur nous. Jamais. Tu sais, quand tu interviens dans une classe, je ne suis jamais intervenue pour moi. Je me suis sentie poussée par des milliers d'êtres humains d'être là. Et quand je suis intervenue, j'avais votre âge chaque fois. C'est incroyable que des choses que j'ai dites, je n'ai pas pensé. Ça m'a monté tout naturellement parce que je sens ce que vous pouvez ressentir.
Qu'est-ce que la vie dans les camps vous a apporté?
Eh bien, ça m'a confirmé que la vie était très importante. Et j'ai compris que le lieu où je suis allée avec deux classes, bon, je ne suis pas retournée plus. Que d'aller à Auschwitz, c'est très important. Mais là, c'est maintenant, c'est le grand silence. C'est vrai que c'est un lieu de mort. Mais dès que vous quittez ce lieu, c'est la vie qui vous attend.
Pourquoi certains survivants de la guerre tardent avant de prendre la parole?
Les autres déportés ne font pas comme ça. Et je n'ai jamais pu, j'étais au départ avec eux, et quand j'ai vu, je ne me suis pas sentie. D'ailleurs, Simone Noël était là aussi. Et toutes les deux nous avons laissé. Parce qu'ils étaient tout le temps en train de redire et de redire ce qu'on a vécu. Moi, je n'avais plus du tout envie d'entendre ça.
Est-ce que vous avez une citation qui vous tient à cœur?
Apprenez à aimer votre vie. C'est sacré. Votre vie a un sens. Et c'est vous qui le donnez.